Nous écoutons un extrait d'un CD en hommage à Gilles Deleuze, paru peu après sa mort. Il est mort le 5 novembre 1995, le même jour qu'Isaac Rabin, sur le label donc bruxellois Sub Rosa. Alors voilà ce que dit le texte de présentation du disque. Il est signé Guy Marquinon, le directeur du label Sub Rosa. Évidemment, dit-il, ceci n'a rien d'un hommage officiel à l'un des grands penseurs de notre temps. Ce n'est rien qu'un salut fraternel de quelques jeunes gens qui profondément l'admirent mieux, qui un jour, par ses écrits, ont été aidés dans leur création et dans leur vie. Gilles Deleuze, vous nous avez donné tant d'encouragement et de telles preuves d'amitié que ceci est bien le moindre signe que nous voulions vous adresser. Voilà, écrit donc en 1795 à Bruxelles, donc avant la mort de Gilles Deleuze, et voilà, c'est une des particularités de ce disque, c'est que, en fait, Guy Marquinon entretenait une correspondance musicale avec Gilles Deleuze depuis de nombreux mois. Il lui a envoyé toutes sortes de disques de musique électronique, à l'éparution de Sub Rosa, mais aussi d'autres choses. Et le CD Falls on Reason, dont on entend un extrait, un morceau de Mouse on Mars, a été mis en chantier bien avant la mort de Deleuze, et devait réunir les morceaux de musiciens, des morceaux que les musiciens ont de l'eau apprécié le plus la musique, hein, comme Mouse on Mars, donc Scanner, Main, Davichi, Oval, etc. Alors ce projet, paru donc après la mort et qui est devenu un hommage, c'est compliqué d'un deuxième CD intitulé Double Articulation, toujours en hommage à Deleuze, et dans lequel les artistes du premier album se sont remixés eux-mêmes, les uns les autres, hein, avec cette complication supplémentaire que, par exemple, Oval se remixe lui-même et que Mouse on Mars remixe tous les autres morceaux de l'album. Voilà. Alors on écoute donc cette deuxième articulation, donc deuxième partie de notre petit exercice. Extrait donc de la deuxième plateau, hein, j'appelle ce brossard, deuxième CD en hommage à Gilles Deleuze, où les artistes se remixent les uns les autres. On écoute Scanner remixant Mouse on Mars. Mouse on Mars, on est en train d'écouter le morceau original au début, on reconnaît la petite mélodie de Mouse on Mars remixée, reprise par Scanner sur un morceau qui s'appelle Phased Lines. Alors voilà ce qu'écrit Guy Marquinon donc, sur la pochette de ce deuxième CD, après avoir conçu Pli et Rhizome, donc Falls on Reasons, à la première écoute même, il nous est venu l'idée de recréer un autre plateau, une autre petite sculpture quantique appelée CD, tirer des lignes de fuite pour remodeler ailleurs et autrement le matériau qui nous apparaissait alors. Donc nous avons demandé aux participants de se remixer les uns les autres, etc., etc. Donc une petite théorie deleuzienne du remix. Alors je parlais d'exercice pratique et l'exercice pratique auquel nous allons nous livrer avec Lee Düring tout de suite. Lee Düring, vous êtes livré un petit décryptage de la pochette, des pochettes de ces deux albums, où il y a beaucoup de citations de Deleuze et beaucoup d'images et de titres de livres ou de concepts de Deleuze qui se mélangent. Alors, s'agit-il, on pourrait dire, d'un véritable branchement opératoire, d'une sorte de mise en pratique à la fois musicale et illustrative de la musique de Deleuze, ou est-ce seulement finalement quelque chose comme une banale illustration ratée?
Oui, il faut distinguer évidemment ce qu'on entend sur le plateau. Enfin, moi j'appelle ça un CD, une galette de CD. Mais là, la question est aussi de qu'est-ce qu'on gagne à appeler ça un plateau, alors qu'on pourrait appeler ça un disque. Mais si, pour parler simplement, avant de parler de la musique, des pochettes, effectivement, qui sont assez belles, on peut pas empêcher les pochettes et le graphisme en général. Enfin, on peut plus difficilement l'empêcher de fonctionner comme un ensemble de clins d'œil ou de signes de reconnaissance à Gilles Deleuze. Alors là, ça fonctionne de façon évidente. Puisqu'effectivement, c'est même pas des citations, c'est des concepts qui sont imprimés sur une page blanche, par exemple, lisse et le strié, ou alors image, temps, double articulation, qui est donc le titre du deuxième album de remix, illustré par la fameuse écrevisse qui et qui est directement reprise
Dans
du
mille
livre de
plateaux, oui.
Deleuze et Guattari, Mille plateaux, reprise à un des chapitres les plus effroyablement difficiles à lire de ce livre, difficile à lire, on ne dit pas assez, qui s'appelle la géologie de la morale, où il est question quasiment de la double articulation, mais en termes parfaitement abstraits, volontairement abstraits, sans aucun exemple concret. Alors pour ce qui est maintenant de la musique, on a entendu donc une reprise par Scanner un remix par Scanner de Mouth on Mars, je dis reprise, mais c'est peut-être un lapsus, parce qu'effectivement la question se pose là aussi de savoir si dans un remix, tel qu'on a pu l'entendre, là, il se passe pas ce qui se passe toujours en musique quand quelqu'un reprend soit un standard de jazz par exemple, soit la partition d'un auteur pour en faire autre chose, pour l'interpréter. Et il y a peut-être une certaine naïveté à penser que en faisant travailler, en donnant comme contenu ou comme matériau musical à un artiste, l'œuvre d'un autre artiste, ou la, disons, puisqu'il faut pas dire des morceaux, il faut dire des tracks, est-ce que réellement, on va obtenir automatiquement un processus d'hétérogénèse ou de capture ou de... Bon. Et de fait, quand on, la première écoute qu'on a de ces morceaux, indépendamment des affects qu'on peut ressentir en les écoutant, si on est alerté du fait que c'est un remix, on sait que c'est Scanner qui remixe Mouth on Mars, on va immédiatement s'intéresser à ce qui est repris et à ce qui est laissé de côté. Alors, en l'occurrence, ce qui est repris, puisque dans l'original de Mouth on Mars, il y a deux ritournelles, si on peut dire, qui sont mises en place, avec deux timbres assez différents. Scanner n'en retient qu'une, où il étouffe totalement l'autre, on croit la reconnaître sur un plan strictement rythmique, mais il conserve la petite ritournelle mineure qui donne une sorte de coloration crépusculaire à l'ensemble du morceau. Bon. Est-ce que ça constitue un devenir au sens deleuzien, une hétérogénèse? Est-ce qu'il y a vraiment une résonance et un plateau qui se constitue? Ou est-ce que c'est pas simplement ce qui se passe toujours en musique, c'est-à-dire on reprend quelque chose, on en fait autre chose?
Alors, on va poursuivre un peu notre enquête. Donc Deleuze était approvisionné en disque par Guy Marquinan. Il était aussi par Hakim Zepanski, de Mille plateaux, dont Deleuze était le philosophe le mieux approvisionné en disque électronique, finalement, de tout le territoire européen, quasiment. Il possédait la crème de la l'électronica allemande et anglo-saxonne. Alors, justement, un des morceaux favoris de Deleuze, un disque que lui a envoyé Hakim Zepanski, d'Oval. Un disque envoyé donc, j'imagine, en 94, hein, extrait de 94 Discount, le premier disque d'Oval, et Deleuze a répondu à Hakim Zepanski en citant Oval et en commentant certains des tracks, justement, certaines des plages de ce disque. Do While. Tournelle de Do While, extrait de 94 Discount d'Oval, deuxième CD sur Mille plateaux, me dit Olivier là, mais pas premier, parce que Systémiche, que je pensais deuxième, était paru en fait avant. Donc petite ritournelle qui dure la bagatelle de 24 minutes quand même, première plage de CD, donc d'avoir le temps, et peut-être que vous avez eu le temps, le souci d'écouter ce disque en entier. Mais Réfléton nous disait d'ailleurs que Deleuze, rien ne marchait chez lui en fait, donc c'est aucune machine, aucun lecteur de CD ou de disque vinyle ne fonctionnait, donc peut-être qu'il écoutait ailleurs, chez un ami, chez Richard Pinas ou chez Jean-François Lyotard, qui sait. Donc nous allons maintenant nous intéresser un peu aux théoriciens de la musique électronique, aux musiciens électroniques qui ont théorisé cette musique, s'inspirant toujours beaucoup d'Yves Deleuze, hein, comme par exemple Hakim Zepanski, donc le directeur du label Mille plateaux. Et Kodwo Shun aussi, qui a écrit Mort brillante d'Anderson, ou Paul Demiller, alias DJ Spooky, enfin toute une série de musiciens allemands ou anglais ou américains ont tiré parti de 1000 plateaux pour produire une véritable théorie musicale, théorie qui porte souvent exclusivement sur la techno ou la musique électronique, ou sa particularité, sa spécificité par rapport à l'art musical en général. Alors, Elie Düring, vous êtes également penché sur ces théoriciens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont retenu de Deleuze? Comment ont-ils compris? Qu'en reste-t-il finalement? Qu'un verbiage insensé ou quelque chose de consistant?
Je sais pas si c'est certainement pas insensé ni bon verbiage, ça c'est au goût de chacun, mais est-ce que c'est consistant? Le problème, je dirais, c'est qu'ils ont un peu tout retenu de Deleuze. C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'exportation ou d'application massive et systématique de toute la batterie des concepts deleuziens au cas de la musique électronique qui déjà chez Deleuze, alors 1000 plateaux c'est quoi, 77?
81.
81, oui, non, je confonds tout. 1000 plateaux, il y avait déjà une théorie du synthétiseur analogique. Il y avait évidemment la présence insistante d'une référence à la musique électronique, sans exemple très précis. Mais bon, la référence quand même dominante chez Deleuze pour penser ce courant historique, cette évolution, ce devenir de la musique à la fin du siècle dernier, c'est quelque chose qui s'amorce déjà chez Barrès, enfin Berio, enfin, tous ces exemples qui reviennent. Et là, ça marche très bien. Je trouve que ça marche en un sens beaucoup moins bien pour les musiques électroniques contemporaines, où ça fonctionne moins bien au sens où il y a d'abord des médiations de plus en plus compliquées. Le sampleur n'a pas tellement intéressé Deleuze, puisque bon, tant mieux les plateaux, il n'y en était pas encore vraiment question. Ça pose d'autres problèmes qui ne sont pas vraiment abordés. Enfin, un problème d'une référence, d'une citation explicite. Par exemple, quelqu'un comme DJ Spooky, donc un autre nom, enfin, donc jeune universitaire et musicien électronique
Paul
américain,
Demiller, reconnu sous le nom de Paul Demiller.
également connu sous le nom de Paul Demiller, par exemple, se réfère plutôt à Derrida. Parce qu'il y a une pratique de la citation explicite, de la déconstruction du langage musical qu'on ne retrouve pas du tout, justement, sur le label berlinois, mais pas tout.
Alors justement, pour citer Debanski, interviewé par Katia Dieffenbach, on voit comment il explique un peu sa relation avec Deleuze et Guattari. Je cite, nous avons utilisé les pensées de Deleuze et Guattari dans 1000 plateaux dans le but de trouver des instruments et des outils qui participent directement au procès de production des sons. Le thème central de ce livre dans les chapitres consacrés à la musique est que la principale relation en musique est celle qui existe entre le matériau et les forces. Ce qui veut dire que les machines structurées comme le synthétiseur et l'ordinateur produisent du matériau sonore molécularisé par lequel elles brisent toutes les formes particulières de musique. La musique devient ainsi plus que la reproduction des notes, elle devient le processus de production des sons. Avec ces machines, c'est ce processus lui-même qui devient audible. Donc là, on voit effectivement comment Debanski utilise donc le chapitre sur la ritournelle, de le parle effectivement du synthétiseur, hein, comme ce qui permet d'associer hein, matériau et force, de capter des forces directement, hein, parce que le matériau du synthétiseur est directement moléculaire. Il produit par des oscillateurs analogiques justement des sons qui sont déjà de la molécule, et donc il capte directement des forces. Donc on voit que finalement, Debanski s'intéresse, on a compris de 1000 plateaux, que cet aspect précis-là, qui lui permet, à travers cet synthétiseur, de penser la musique électronique. Mais là, on voit effectivement qu'il ne pense pas non plus au sampleur, ni effectivement au travail que fait Ovaz sur ordinateur.
Il y a aussi toute cette lignée qui est plutôt dans la filiation du hip-hop, le breakbeat, etc. Je pense pas que 1000 plateaux fournissent les instruments adéquats pour penser ça, pour penser le breakbeat, par exemple. Et curieusement, ce serait plutôt dans l'anti-Œdipe qu'on y trouverait les outils adéquats, avec l'idée qu'une machine fonctionne toujours avec des coupures. Une machine, c'est un système de coupe ou d'interruption, ce qui n'est pas du tout développé dans Mi-Plateau. Mi-Plateau ne donne pas une théorie de la machine, mais de la machine abstraite, qui est encore un niveau supplémentaire, une théorie du devenir très élaborée. Mais je dirais, pour penser ça, il faudrait l'épuiser un peu plus dans l'anti-Œdipe, qui ne semble pas être une des références majeures de tous ces théoriciens de la musique électronique. Il faudrait peut-être diversifier sa panoplie. Mais bon, pour revenir à cette affaire de synthétiseur, c'est intéressant parce que là, on voit très bien comment Deleuze lui-même fait un certain usage de la référence musicale pour illustrer un projet théorique ou une élaboration théorique qui était la sienne et qui l'intéressait pas simplement pour la musique, mais pour être appliqué aux arts en général. Il y a une métaphysique du devenir. Le synthétiseur l'intéresse, pas tellement en tant que synthétiseur, pas tellement pour ce que les musiciens en font concrètement, mais d'abord parce qu'il illustre quelque chose qui lui semble être le propre de la musique en général, mais ça vaut aussi bien de la polyphonie médiévale que de Beethoven ou que de la musique électronique, c'est que l'idée que la musique est une opération, alors ça c'est une phrase de Mille Plateaux, une opération active, créatrice, qui consiste à déterritorialiser, j'ai réussi à le dire, la ritournelle. et déterritorialisée dans le cas du synthétiseur. Ce qui l'intéresse dans le cas du synthétiseur, c'est que la déterritorialisation va porter directement sur le son lui-même. C'est-à-dire qu'il faut déterritorialiser le système tonal en attaquant, en retravaillant la matière sonore elle-même, pas pour faire du bruit, pas pour produire du son pur, mais pour faire entrer la musique dans un devenir moléculaire. Et alors, curieusement, on va pouvoir, ça c'est le problème de Deleuze, il va pouvoir à chaque fois citer la musique électronique comme des productions qui illustrent ou qui donnent, qui sont l'allégorie vivante du processus de la musique en général, parce que justement le contenu musical, il devient le processus lui-même. C'est comme si les musiciens électroniques travaillaient directement, un peu en pleine patte, on pourrait dire, sur le processus, le devenir sonique ou sonore lui-même.
Alors avant de poursuivre avec Olivier Lam notre exploration de ce que les musiciens électriques ont retenu ou non de Deleuze et comment ils l'ont mis en pratique, un petit détour par le rock et par la pop avec Rodolphe Burger, un leader de Catonoma, que nous avons interrogé sur Gilles Deleuze, et on va voir ce que lui justement retient Gilles Deleuze, quelque chose qui est plus de l'ordre de la ritournelle justement. Deleuze serait pour Burger quelque sorte la justification ultime de la légitimité finalement de la ritournelle, c'est-à-dire de la mélodie en musique.
C'est une espèce d'allié, en effet, d'allier, parce que je sais pas, enfin, là, il faudra aller prendre des textes, mais ce que tu dis, là, enfin, qui concerne Catonoma, là, sur cette chose qui est une tentative de reprise de, disons, des rudiments du rock pour. On pourrait dire de territorialiser ça, enfin de se fabriquer son propre idiome, et à partir de rudiments qui ne sont pas reliés à une qui sont pas ancrés dans une tradition, un folklore, etc. C'est des choses qu'on s'approprie, et en même temps le but est de fabriquer au fond, oui, une ritournelle au sens de Leuzien. Donc tout ce que raconte Deleuze sur la bonne et la mauvaise ritournelle, qui est à la fois incroyablement précis et très très difficile à appliquer. C'est-à-dire que on sent bien quand il parle de ça, c'est très précis. Il y a les bonnes et les mauvaises ritournelles. Il y a le moment où une ritournelle décolle, le moment où une mélodie cesse d'être régressive et devient tout d'un coup une vraie machine à décoller, enfin, c'est ce qu'il raconte de la sonate de Vinteuil, etc. Tout ça, c'est vrai, m'a beaucoup parlé par rapport à des questions que je me posais moi-même sur cette espèce d'insistance en moi, par exemple, de cette espèce d'obstination mélodique. Cette façon, je m'interrogeais sur la nature de ça. Est-ce que c'est justement plutôt une marque régressive? Est-ce que c'est des choses que j'aurais à dépasser pour aller vers, alors, je sais pas, plutôt du développement harmonique, ou est-ce qu'il faut s'affranchir de ça, de la mélodie, par exemple, qui caractériserait, disons, les musiques populaires, par rapport aux musiques savantes, qui se lèvent plus du côté de, disons, très vite de l'harmonie. Deleuze m'a aidé à tenir bon et à me dire que dans cette insistance du mélodique, il y a quelque chose de fondamental dans la musique. Et la manière dont il pointe ça chez Schumann, etc., me parle beaucoup sur alors d'autres musiques, celle d'Ornette Coleman, par exemple, où il y a aussi une insistance du mélodique tout à fait fascinante, quoi. Chez quelqu'un qui a tout bousillé, qui a inventé le free jazz, c'est-à-dire théoriquement quelque chose qui s'affranchit de tout, et ben au cœur de ce processus d'affranchissement, il y a malgré tout une incroyable insistance mélodique. On trouve des phrases, et au fond la musique c'est toujours à la fois quelque chose qui tente de se délivrer de ça et qui vise de manière ultime toujours ça. Donc il faut à la fois un chant nouveau, comme dans la dernière phrase de Nietzsche à Overbeck, hein, chante-moi un chant nouveau, et puis ce chant nouveau, il est impossible de le il faut un chant qui soit nouveau, et donc il faut se délivrer de tous les vieux refrains naïfs, hein, de toutes les vieilles rengaines. Et en même temps, ce qu'on vise, c'est quand même toujours un chant. Enfin, donc cette espèce de mystère là, je trouve que Deleuze a tourné sans arrêt autour de ça.
C'est vrai que ça apparaît de manière encore plus nette peut-être dans les concerts de Tetonoma, parce que il y a un moment donné où effectivement où la mélodie va être pulvérisée dans une sorte de fantastique orgie de guitare électrique. C'est vrai que c'est une chose qui apparaît à chaque fois, comme si la ritournelle sombrait dans un gouffre musical, un mur de guitare, et qui à la fois l'écueil et la libération du rock, on peut pas dire autre chose à côté de la mélodie que ça. Soit on est dans la ritournelle, soit on est dans la déclamation chaotique où il n'y a plus que de la guitare. Et peut-être ça d'ailleurs aussi qui fait que les morceaux de Pina sont vraiment réussis, que quand il y a une voix qui se pose sur son magma de guitare, parce que sinon on est nulle part, finalement. on est dans le chaos. Donc quand la voix de l'eau se pose, tout à coup on a quelque chose qui fonctionne. Donc c'est l'un et l'autre, en fait.
Oui, ça correspond au concept de Leuzien de chaosmos, qui est exactement ce qu'expérimente tout musicien qui a un petit peu de cervelle et qui est dans son studio. Ça m'est arrivé très très souvent de penser à Deleuze quand je travaillais avec Doctorel. On est en plein dans une espèce de on côtoie le chaos absolu à tout instant, c'est-à-dire l'infini, et aujourd'hui plus que jamais, c'est-à-dire que l'infini des possibilités qui sont rassemblées dans ne serait-ce qu'un ordinateur aujourd'hui qui ouvre tout l'espace des sons possibles et de leur traitement et de leur déformation, etc. Comment à l'intérieur de ça, naviguer, tenir un cap, ne pas se perdre. Qu'est-ce qui fait que ça, à un moment donné, ça s'organise malgré tout? Qu'est-ce qui décide d'une mise en ordre, d'un arrangement dans ce chaos absolu? Cette expérience-là, Deleuze aide à la vivre. Enfin, il est toujours très tout près de ça. Enfin, on a l'impression qu'il parle que de ça. Il parle de ça pour la littérature aussi. C'est exactement la grande question, toujours la même. Et aussi, là, on pourrait dire la question de la folie et une expérience d'une traversée de ça. Enfin, je me souviens de la façon dont les cours de Deleuze étaient agissants. Très au-delà de... Bon, c'était bien sûr toujours d'extraordinaires leçons de philosophie, quand il y avait des cours sur Leibniz ou qui que ce soit, mais son public était composé de... pas du tout de philosophes, enfin très peu, il y en avait très peu. C'était essentiellement des artistes ou des étudiants en cinéma, enfin... Et donc des gens qui n'étaient pas du tout... familier de l'œuvre de Leibniz, et lui faisait absolument pas des cours de vulgarisation, j'ai des cours de haut niveau sur Leibniz. Et en même temps, l'effet de ces cours était immédiat, c'est-à-dire que les gens sortaient de là, ils avaient l'impression qu'ils allaient tout de suite se mettre au boulot, quoi. C'est-à-dire qu'ils partaient de là avec une espèce d'énergie, ils communiquaient une énergie extraordinaire. Et c'était aussi son discours permanent quand on lui posait des questions. Certains venaient avec leurs soucis, voilà, je voudrais faire ci, ça, j'y arrive pas. Je me pose la question d'eux, etc. Il y a une manière de dire, mais laissez tomber les questions, la question des présupposés, tous ces bazars. Si vous avez la chance d'avoir un truc qui vous tient quelque part, foncez, enfin une espèce de manière d'encourager toujours le mouvement d'aller vers son désir, enfin disons. Et donc une pédagogie de ça, extrêmement puissante, qui était celle aussi d'un sage au sens... d'un sage au sens presque oriental, quoi. Quelqu'un qui transmet bien autre chose qu'un savoir, en tout cas. Qui transmet aussi une espèce d'attitude fondamentale par rapport à l'être. Enfin, je sais pas comment.
Là même, alors là, on peut être très généreux. Il y a très peu de gens qui sont totalement idiots. Il y a toujours un truc qu'ils comprennent. Je veux dire... On a tous notre petit truc, par exemple un sens, les uns ont un sens étonnant de tel animal, ça ne les empêche pas d'être méchants, tout ça, mais là ils ont quelque chose. Le sens du bois, ah oui ça, ce type, cet imbécile et ce méchant, au moins, quand il parle des arbres, il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose. Hein, qui nous, on passe notre temps à faire ces expériences-là, oui. l'impression que, si vous voulez, c'est fini, que même le pire clown, hein, il y a un point où, non, c'est fini d'être clown. Hein. Enfin, il y a quelque chose. Bon, c'est comme ça, vous pouvez vous dire, ah ben oui, personne n'est condamné au premier genre de connaissance, il y a toujours un petit espoir, quoi. Bon, c'est très important. Ah, il était moins odieux que je ne croyais.
Extrait de la cour de Deleuze sur Spinoza, hein, édité par Gallimard, un double CD, enregistré par Claire Parnet et Richard Pinaz d'ailleurs. Alors Olivier Lame, c'est quoi votre petit truc à vous qui ne vous rend pas complètement idiot justement?
Il n'y a rien qui ne me rend pas complètement idiot. Je sais pas, c'est pas mon amour des animaux, ça c'est sûr. Faut que je réfléchisse en fait. Probablement mon approche de la télévision, voilà.
Alors vous sortez donc sur le label Active Suspension après un premier album assez concassé chez événement Snow Party. Alors on vous a invité parce que vous vous intéressez aussi à Gilles Deleuze.
Il se trouve que
vous l'avez lu.
Je l'ai lu, ouais. Contrairement à beaucoup de musiciens électroniques qui s'en réclament, je pense. J'espère.
Alors et vous, qu'est-ce que vous avez retenu, Gilles Deleuze, et comment vous l'avez utilisé, hein, si ça a un sens de...
Bah, je l'ai pas utilisé en tant que tel, parce que je théorise pas, bien sûr, quand je fais de la musique, je théorise pas avant. Mais bien sûr, après, ça me permet, en y réfléchissant, après votre invitation, ça m'a permis un peu de revenir un peu sur l'essence de ce qui pouvait faire que les assemblages de sons que je faisais dans mon ordinateur pouvaient être de la musique et pouvaient se référer à ce que Gilles Deleuze considérait comme de la musique. À partir de là, c'est un ensemble de choses qui se réfère autant à la manière dont je fabrique ma musique, on va dire, et à ce qu'elle représente et ce qu'elle est, on va dire, essentiellement, au niveau de son contenu et de sa matière.
Alors on évoquait avec Elie Düring tout à l'heure justement les théories de Dépensky et l'usage qu'il faisait donc de la théorie que propose Deleuze du synthétiseur analogique dans Mille Plateaux. Et alors, qu'est-ce que vous privilégieriez vous justement? Quel livre, quel ouvrage, quel concept, quel passage est-ce que vous mettrez en évidence là pour...
Il y en a beaucoup. En premier, je pense que d'abord sur la façon dont le sens se construit, donc c'est pas directement lié à la musique, mais dans logique du sens. Et ensuite, pour la pratique, toute l'introduction de Mille Plateaux, donc les 40 pages de l'introduction au rhizome, qui donnent vraiment des outils précis pour vraiment arriver à penser la musique en général, et pas seulement la musique électronique.
Alors un extrait de Snow Party à nouveau, plage 8, 6 minutes 40, un peu de cadastre.
C'est ça la conséquence, comme elle-même l'avait dit, des événements de cette soirée une temps plus tôt. Et si elle l'avait fait, n'était-ce pas seulement pour rappeler énergiquement au comte ce qui s'était passé ce soir-là, puisqu'il ne lui avait jamais témoigné le moindre intérêt? Tout à coup, il sentit le besoin de poser l'espèce de question brutale dont seul un enfant était capable. Eh bien, heureusement, on a pu vous sauver la vie. Mais au fond, avez-vous eu l'intention de vous tuer? Il pensait que bien elle pourrait se fâcher ou bien fondre en larmes. Mais au lieu de cela, elle ne fit entendre qu'un petit rire poli. Ma foi, si le maître avait daigné me dire « Tuez-vous », peut-être bien qu'alors j'aurais vraiment eu été d'humeur à mourir. Et maintenant encore, s'ils m'ont donné l'ordre, j'essaierai une nouvelle fois. Et cependant, dans 8 ans, il se pourrait bien que le maître eût oublié ce qu'il avait dit une fois de plus.
á sumrin og enda á veturnar.
Mér var þeir alltaf komið í hring í einhverju myrkri og kulda.
Ég held einmitt að hann á veturnar þá var allir saman, allir hættu saman sumrin. Og það til að hafa þess að kúra hjá.
Olivier Lam, on écoutait la fin de la plage 8 et le début de la plage 9, ça s'appelle justement Slow Party, donc à l'opposition entre deux régimes musicaux tout à fait différents, hein, avec ces successions de voix en islandais et en français, cette sorte de chaos rythmique microsonique que vous appréciez particulièrement, et puis cette longue plage qui commence, hein, cette plage de neige, là, ce son diffus qui vient en quelque sorte nier ce qui s'est passé juste avant.
Je suis pas tout à fait d'accord, je pense que les deux sont très liés en fait. Seulement il y en a un où les divers éléments sont plus, parce que dans la manière dont je l'ai conçu c'est à peu près pareil, il y en a où les différents éléments sont plus ou moins hétérogènes et l'autre où les différents éléments ont l'air en tout cas plus homogènes, et donc forcément la progression a l'air plus directement enfin elle est un peu plus simplifiée, enfin dans la manière dont je l'ai conçu c'est à peu près pareil quoi,
on va dire. Donc on a entendu un extrait de Mishima. Voilà. Il y avait beaucoup de choses hétérogènes justement dans votre musique, hein. À la fois sur les sons différents, il y a toujours beaucoup de couches superposées, de rythmes qui s'imbriquent les uns les autres, et donc de références diverses. Donc la Snow Party, aussi une référence à un poème irlandais. On a entendu les islandaises, il y a ce japonais, c'est une mémoire sur Faulkner. La musique électronique, enfin, tout ça fait beaucoup de choses à la fois.
Ouais. Je fais beaucoup de choses à la fois. Non, mais.
Alors, on est proche du chaos deuxième, presque. Comment on ne tombe pas dans le chaos complètement? Qu'est-ce qui marque encore les temps? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une sorte de malgré tout, de petite ritournelle qui nous perd pas complètement dans le noir?
Là, ça, je pense qu'on est tous comme ça. C'est qu'on est tous, je pense que tout ça communique, forcément. On est tous un amas, plus ou moins chaotique, plus ou moins, de différents agrégats plus ou moins élémentaires qui communiquent les uns avec les autres. Enfin, je crois que on est tous des êtres très complexes, quoi, contrairement à ce que je disais juste avant de manière un peu méprisante sur les petits gens, sur les gens.
Et justement que même les idées ont quelque chose. Quoi,
voilà, c'est ce que je pense, et je pense que bon moi il se trouve que j'ai plutôt tendance à incorporer beaucoup de choses à droite à gauche, sans a priori, donc forcément ça se ressort de manière plus ou moins chaotique.
Qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça? Est-ce qu'il y a un minimum de pulsation malgré tout?
Ah bien sûr, ça, je pense qu'il y a de la pulsation partout, y compris dans ce qu'il y a de plus chaotique. Et d'ailleurs c'est Deleuze qui le dit précisément sur la ritournelle, où il explique que même le chaos ce qu'il y a de plus chaotique en fait, il y avait toujours un certain nombre de pulsations qui ressortaient. Et c'est cette pulsation-là qu'il faut arriver à trouver pour arriver à trouver quelque chose à la fois d'harmonieux, parce que le chaos, il produit du sens. Et au contraire, il le détruit pas, il le conçoit. Et je pense que dire qu'il n'y a pas de chaos, là où il y en a à peu près partout autour de nous, c'est au contraire trahir le chaos, et au contraire, aller contre le sens plutôt qu'aller vers le sens. Et je pense qu'il faut tout simplement arriver un peu à trouver le flux chaotique qu'on en soit pour arriver ensuite à ce qui se développe de manière naturelle, quoi.
Alors, on parlait de ritournelle, et bien, j'en ai trouvé une ritournelle dans votre album, Plage 4, autour de 2 minutes 50. On va prendre le morceau un peu avant pour bien la voir venir, cette ritournelle, Olivier Lam. Thank you. La petite ritournelle d'Olivier Lame, Mirédo, Mirédo, me dit Jacques. Cette petite ritournelle soyeuse qui vient à la fin de la page 4 de son album. Alors le titre de ce morceau est extraordinaire. Je vous le lis avant de passer la parole à Jacques Amblard. She is that beau, folky, always strumming à la guitare, shyly, in the corner.
Les autobus, les voitures et même les avions doivent se mettre en mouvement demain à partir de 7h dans toutes les directions pour amener les vacanciers jusqu'au bureau de vote.
Jacques Amblard, aujourd'hui, il sera question de devenir animal ou devenir imperceptible, pour reprendre le titre du chapitre de l'île Plateau qui précède la ritournelle.
Oui, c'est-à-dire que Deleuze a l'air de penser que la musique est traversée comme ça, de devenir enfant, devenir femme pour les compositeurs hommes, et devenir animal. Alors ça, c'est un concept finalement qui est extrêmement simple, puisque, comme Élie Durin le disait, hors antenne, eh bien, finalement, se devenir dans la musique, parce qu'il peut finalement concerner tous les arts et même tout le monde, eh bien, se fait d'une façon particulièrement claire, on l'entend. C'est-à-dire le fait d'entendre un oiseau imiter, eh bien, c'est un devenir oiseau, c'est tout simple. Donc, quand on entend un oiseau, par exemple, dans Pierre et le Loup, eh bien, c'est un devenir oiseau. On va dire, ah, mais Deleuze est idiot, enfin, pourquoi il donne un nom ronflant pour dire qu'on entend un oiseau, pourquoi il a tout ça devenir oiseau? Ben parce que justement, dans le cas de la musique, eh bien, ça, la transsubstantiation se fait d'une manière totalement naturelle. Alors, il dit Deleuze, les oiseaux sont vocaux, mais les insectes instrumentaux, tambours et violons, guitares et cymbales, et il ajoute, un devenir insecte a remplacé le devenir oiseau ou fait bloc avec lui. Alors, entendez, dans la musique contemporaine, dans la musique de son temps. Et on va un petit peu examiner cette proposition, la vérifier. Et cette œuvre électronique de Xenakis abonde dans ce sens, dans le sens du devenir insecte. Concret PH, donc de Yannis Xenakis, 1958. Et pourtant, la musique électronique n'est pas que ce devenir insecte, peut-être, et peut conserver en partie du moins des devenirs animaux deleuziens plus classiques, des devenirs oiseaux, comme ce devenir insecte électronique qui atteint même un devenir moléculaire, selon l'expression de Deleuze, mais est précédé d'un devenir gros oiseau, plus précisément peut-être d'un devenir chouette-ulotte, écoutez. On entend bien comment finalement cette façon de dichotomiser à l'extrême les sons, déjà comme ça se passait dans les années, fin des années 50 dans la musique concrète, eh bien, et n'est pas qu'un devenir moléculaire, c'est un devenir langage, comme les consonnes qui finalement hachent les sons. C'est pour ça qu'on sent un petit peu un devenir R2-D2 dans ces bruits de robots, puisque finalement ce sont des sons qui sont hachés, comme ça, et qui finalement donnent l'idée d'un langage par la hachure, et le côté électronique donne le côté robot. Bon, il s'agissait de Ligeti, Articulation, 1958, et un autre devenir oiseau, maintenant ligétien toujours, qui demeure dans une musique électronique, donc un beau devenir oiseau, un devenir hirondelle.
Donc Ligeti glisse Andy à présent 1957, et Pierre-Henri parvient 10 ans plus tard à conserver un devenir oiseau, toujours, donc contre l'avis de Deleuze, finalement le devenir oiseau reste en musique électronique, peut-être pas uniquement devenir insecte, au sein d'une musique électronique, c'est-à-dire à ployer le matériau électronique a priori dévolu à la percussion régulière, la stridulation de l'insecte, vers sa fonction universelle, intemporelle, mythique de devenir oiseau. Les matériaux changent, mais le paradigme de la musique reste unique, semble dire Pierre-Henri dans cette œuvre délicate. Pierre-Henri, après la mort 1, extrait du Voyage 1967, d'après le livre des morts tibétains. Dans son œuvre la plus populaire, Pierre-Henri sacrifie un devenir animal plus anthropomorphe pour s'approcher du roc de la pulsion, un devenir singe peut-être. L'instrumentation, dit Deleuze, l'orchestration sont pénétrées de devenirs animaux, devenirs oiseaux d'abord, mais bien d'autres encore, dit Deleuze. Alors pourquoi pas ce devenir chimpanzé de toute beauté ? Kérok, extrait de Messe pour le temps présent 1968 de Pierre-Henri et Michel Colombier. Et enfin, Berriot part du point de vue deleuzien pour s'en éloigner, du devenir insecte électronique, d'un bruit électroacoustique, naît une hachure équivalente à la voix, c'est-à-dire des consonnes, puis un devenir voyelle peu à peu, un devenir langage, le tout restant un désir comme tout devenir selon Deleuze, qui dit en effet « le devenir est le processus du désir ». Le devenir insecte de la musique électronique est donc faible par rapport à son désir d'humanité. Merci Jacques. Alors Elie Durin, vous voulez réagir un peu au, hein, au propos de Jacques Amblard sur les devenirs qui sont peut-être pas très respectueux de la philosophie de l'île de Deleuze.
Non, c'est pas une question de respect, mais je suis à la fois entièrement d'accord avec avec ce qu'a dit Jacques Amblard et les illustrations, et en même temps il a un peu forcé la chose. Peut-être en expliquant d'emblée, et là il avait raison, c'est vrai que le concept est simple, il ne faut pas chercher des choses très compliquées, forcément. En même temps, Deleuze insiste bien, il faut prendre aussi ça en compte sur le fait qu'il s'agit devenir oiseau, devenir animal en général, c'est pas imiter les animaux, c'est pas faire l'oiseau. Pourquoi il parle de devenir animal ? C'est pas simplement pour penser des phénomènes aussi simples que imiter son chien en faisant le chien, ou en entrant dans un devenir chien, où le chien deviendrait lui-même autre chose, c'est pour penser le devenir en général. Alors, justement, c'est l'affaire de la double articulation. On parlait de l'écrevisse qui illustre avec ses deux pinces, cette double articulation, c'est précisément d'essayer de penser le devenir autrement, penser le devenir animal, pourquoi il utilise le devenir animal, c'est pour illustrer le fait que le devenir, ce qui est réel, c'est le devenir, et pas ce qu'on était ou ce qu'on devient. Ce qui est réel, c'est pas l'animal qui est en face de moi et moi qui essaye de l'imiter, c'est ce qui se passe entre les deux. On pourrait résumer toute la philosophie de Deleuze en une phrase, s'il fallait. Le devenir est réel, c'est le devenir qui est réel. Et alors, simplement, après, quand il essaye de penser ça avec ce concept de double articulation, il insiste bien sur le fait que l'animal, en l'occurrence l'oiseau, ou tout autre animal, ou le singe, c'est pas un thème ou un motif ou un sujet qu'il faudrait imiter, mais que précisément, ce à quoi a affaire la musique, c'est pas l'animal en tant que tel, c'est justement le devenir animal qui devient son propre contenu. Donc, tout, c'est ça la double articulation, c'est que la forme d'expression de la musique va prendre pour contenu un devenir animal. Mais c'est pas contradictoire avec ce que disait Jacques Amblard, mais on pourrait presque citer Deleuze là-dessus, puisqu'il dit les choses très clairement, c'est vrai. Il dit la musique prend pour contenu, donc, un devenir animal. Mais le cheval, par exemple, il aurait pu parler de l'oiseau, le cheval, par exemple, il prend comme expression les petits coups de timbales ailés, tels des sabots qui viennent du ciel ou de l'enfer. Et tout à l'heure, on a entendu le devenir singe ou chimpanzé, mais c'est pareil, il n'y a pas de devenir chimpanzé de la musique sans que le chimpanzé lui-même entre dans un devenir électronique ou métallique.
Finissons dans les flux d'une table de mixage sans entrée ni sortie, No Input Mixing Board de Toshimaru Nakamura sur le label Aristocrat, deuxième parution de Michel Henrigui. Donc voilà, le plus pur bruit rémanent d'une table de mixage, le pur flux, le vide de la machine que l'on fixe du regard, que l'on fixe de l'oreille. Cette émission s'achève. Merci à Élie During, à Jacques Amblard et à Olivier Lame. Donc, vous pouvez vous procurer l'album paru chez Active Suspension Snow Party et distribué par Chronowax chez tous les bons disquaires. La semaine prochaine, nous recevons Éric Neveu, hein, qui va sortir aussi un très bel album qui s'intitule The Rock Experience, où la musique électronique est prête à devenir rock, cette fois-ci, avec des vrais musiciens qui jouent des instruments sur scène. Laurent Rousseau a réalisé cette émission avec Mathieu Cavalli au platine. Je vous souhaite à tous et à tous, chers auditeurs et chères auditrices, une très bonne fin de soirée sur France Culture.